Merci d'être là ce matin pour cette table ronde sur « Faut-il donner des droits à la nature ?» Donc, et puis merci aussi pour votre présence, pour cette réussite, puisque j'en profite pour ces journées de Cluny. C'est la première édition et nous espérons bien que ce ne sera pas la dernière. En tout cas, si vous en êtes satisfait, je pense que nous allons renouveler l'expérience et donc l'espace de réflexion. Je veux donc remercier également Marine Calmet, qui nous fait le plaisir d'être ici ce matin. Marine Calmet, qui est donc une juriste, qui est une avocate de formation, juriste en droit de l'environnement et des peuples autochtones, porte-parole dans l'Hexagone du collectif Hors de question, opposée au projet donc Montagne d'or et à l'industrie minière en Guyane. Elle milite pour la reconnaissance des droits de la nature et le respect des droits des peuples premiers dans le monde. Donc, depuis 2015, elle met son expertise juridique à disposition des associations de terrain et des citoyens, citoyennes, engagés pour la protection de notre planète. Convaincue du droit pour enclencher le changement vers une société en harmonie avec le vivant, elle a cofondé White Legal, une association hybride, alors je ne sais pas ce que ça veut dire hybride, vous nous expliquerez, regroupant une école de droit de la nature et un laboratoire d'action pour la protection de notre planète. Alors, c'est peut-être ça, hybride. C'est juste ça. D'accord. OK. Voilà. Elle a donc publié un livre qui est relativement intéressant, donc, qui s'appelle « Devenir gardien de la nature ». Donc, je vous recommande la lecture. Elle a également préfacé le livre de base sur les droits de la nature qui avait été écrit par Christopher Stone en 1972 et qui a été republié cette année. Voilà, avec une postface de Catherine Larrère qui était là hier également. Encore aujourd'hui, d'accord. Donc, je ne l'ai pas aperçu, donc je ne savais pas, parce que comme... D'accord, voilà. Alors, donc, nous, ce matin, donc, cette table sur les droits de la nature, c'est une notion que l'on entend, qui revient très souvent dans les journaux, et j'en ai pour preuve ce texte qui a été publié le 17 octobre 2022 dans Le Monde, qui montre que, justement, on doit recréer de nouveaux liens avec la nature, qu'on doit sortir, justement, de cette position extractiviste, j'allais dire, de la nature, et qu'il allait falloir remodifier tout notre regard sur le devenir, sur la manière dont on habite notre planète. Et le droit, donc, peut nous y aider. Et là, je vais citer tout de suite Martine Calmet, qui nous dit « Le droit est l'expression de notre société. Or, nous sommes en train de modifier notre vision. On découvre que l'humain n'est pas le centre de la vie. » En ce sens, donc, elle rejoint un petit peu donc, la réflexion de Philippe Descola, qui étudie beaucoup notre invention occidentale de la nature, qui est un des traits de caractère de notre civilisation d'exploitation extractiviste, polluante. Et donc, Philippe Descola, dans ses nombreux livres, rappelle que dans d'autres cultures, le mot « nature » n'existe pas. Si on l'a inventé, c'est que ça a permis de mettre une distance entre nous et ce qu'on appelle la nature et de pouvoir exploiter des lieux, des animaux, des êtres humains aussi, comme des ressources, de ne pas tenir compte de la richesse, de la diversité du vivant. Bruno Latour nous a quittés il y a quelques jours et je voudrais... parler un petit peu, justement, puisque c'est un rapport avec ce qui nous anime aujourd'hui, à la suite de James Lovelock. Donc, Bruno Latour a émis l'hypothèse Gaïa, qui est donc la notion de zone critique. Alors, la zone critique désigne la fine pellicule entre le sous-sol et la basse atmosphère où se concentre la vie terrestre. Et il définit, je vais faire très bref, que ce sont les êtres vivants qui créent nos conditions de vie. Nous sommes donc tous liés dans ce même mouvement. Donc, plus nous appauvrissons la biodiversité et plus nous appauvrissons nos conditions de vie. Si la prise de conscience donc, de notre milieu, que notre milieu de vie est à protéger est assez ancienne, l'idée d'accorder des droits à la nature est plus récente. Donc, c'est ce fameux livre fondateur qui, en 1972, de Christopher Stone, Les arbres doivent-ils plaider, il voulait contrer à l'époque le projet de Walt Disney Company qui menaçait une forêt de séquoias. Et c'est alors qu'il proposa d'accorder des droits à la nature. Alors, peut-être, justement, Marine, vous allez peut-être pouvoir nous donner un petit peu, ça fera un petit historique sur quels arguments utilise-t-il dans cette première démonstration, dans ce livre, Voilà.
Alors, bonjour à tous et merci d'être venus. Effectivement, donc, dans ce livre qui est paru, republié cette année, c'est l'article en fait, universitaire à l'origine publié par Christopher Stone pendant l'affaire qui opposait donc, l'association environnementale et Walt Disney et qui soulevait l'étrangeté du raisonnement du juge qui interdisait finalement aux associations d'agir pour défendre ces séquoias. Le juge américain fait une application très restrictive de l'intérêt à agir et dit les associations ne sont pas propriétaires de ce parc, elles ne sont pas non plus lésées dans leurs intérêts propres vu qu'elles ne représentent que des humains. Or, il s'agit d'arbres et en l'occurrence, donc, les humains ne peuvent pas plaider pour défendre la nature. Et alors Christopher Stone prend la chose à l'envers et dit ben, dans ce cas-là, est-ce que les arbres doivent pouvoir plaider ? Et c'est étonnant pour comme raisonnement, effectivement, et la phrase est accrocheuse justement pour nous obliger à réagir et pour nous amener à réfléchir à effectivement qui a dans notre société la garde de la nature, qui peut représenter la nature. Et donc, il fait pour la première fois cette hypothèse juridique de dire non seulement on peut donner des droits à la nature, c'est faisable juridiquement, aucun problème, mais en plus c'est souhaitable. Et cet article donc universitaire, il est construit sur cette idée qu'à la fois juridiquement il n'y a aucun problème parce que le droit est une fiction et qu'on peut créer ce qu'on veut en droit et notamment du coup la vision politique finalement que donner des droits à des entités naturelles c'est le prolongement logique d'une société qui progressivement intègre des perspectives issues de personnes différentes, humaines et non humaine. Et pour ça, il a une manière très intelligente d'amener les choses, parce qu'on a toujours l'impression que le droit est très figé, qu'il ne bouge jamais, quelque chose d'inscrit dans le marbre. Eh bien non, il nous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien, les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes. Elles étaient considérées, elles aussi, comme incapables et placées donc sous la tutelle du père ou du mari. Mais il remonte même beaucoup plus loin à l'abolition de l'esclavage, rappelant que pendant très longtemps, certains êtres humains étaient des objets, étaient des biens vendus et du coup achetés par des marchands d'esclaves, exploités pour leur force manuelle et pour des principes économiques. Et donc du coup, il nous met face à l'histoire du droit et nous rappelle que même au sein de l'humanité, pendant très longtemps, il y avait des objets et des sujets. Puis, eh bien, on s'est justement, on a acté le fait que tous les hommes sont égaux en droit face à la loi. Et ça a pris énormément de temps, puisque c'est à peine au siècle dernier que les femmes sont devenues légales des hommes sur le plan juridique. Et donc, il faut voir que l'abolition de l'esclavage est bien plus ancienne que la reconnaissance de la fin de la domination masculine. Et puis, le sujet n'est pas passé d'actualité, on le sait aujourd'hui. Donc, du coup, il y a vraiment il essaye comme ça de déconstruire un peu les a priori qu'on aurait vis-à-vis des droits de la nature. Et il nous souligne aussi que certaines constructions qu'on pense acquises et logiques sont tout à fait novatrices d'un point de vue du droit, et notamment la différence entre personnes physiques, les êtres humains en l'occurrence, et personnes morales, une construction juridique issue des besoins en fait de notre société. Il rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le principe même de nation et d'État est une construction juridique assez invraisemblable jusqu'à encore récemment. Par exemple, en France, le roi était la seule personne à constituer la nation et que le terme même d'État est une construction juridique très novatrice. C'est-à-dire qu'on a la France qui est une personne morale et plus du coup liée à la personne du roi qui était le seul représentant de l'État français et du royaume. Et puis, il revient aussi sur la création des entreprises, des syndicats, et puis des associations ou des organisations internationales, qui sont des conventions juridiques, en fait, extrêmement neuves au regard de l'évolution du droit. Et de cette manière-là, il nous permet de déconstruire, en fait, notre rapport au non-humain en disant, puisqu'on peut créer d'autres sujets juridiques en fonction de nos besoins, pourquoi pas créer des entités naturelles, sujets de droit et titulaire de droits fondamentaux. Et il remet ça dans le contexte des années 70. Hein, et dans les années 70, vous le savez, on est déjà au courant du réchauffement climatique, on est déjà au courant de la destruction de la biodiversité. Et Christopher Stone est au courant de ces sujets-là, lui aussi, universitaire américain, juriste. Mais pour autant, dans son livre, il a déjà des phrases très chocs, des phrases qu'on retrouve chez Greta Thunberg aujourd'hui. Déjà à l'époque, il dit « Si nous ne changeons pas notre manière de nous adresser au monde par le droit, nous courons à la catastrophe ». Et ça, c'est en 1972. Et il dit « Aujourd'hui, en 1972, nous pouvons constater que l'État n'est pas capable de protéger la nature. Or, il en est le tuteur légal, il est le gardien de l'intégrité de notre territoire et il n'arrive pas à faire face avec les outils juridiques actuels parce qu'on le voit bien, il y a une phase à ce moment-là aux États-Unis de judiciarisation des conflits environnementaux. De plus en plus d'associations commencent à monter au créneau, notamment dans cette affaire qui est symptomatique, hein, Walt Disney qui veut tout simplement raser cette vallée de séquoia pour mettre une piste de ski. C'est quand même assez emblématique et on retrouve aujourd'hui cette même philosophie, hein, comme quoi on n'a pas beaucoup évolué dans les projets de divertissement et les projets d'urbanisme. Et il dit il faut absolument pouvoir avoir en fait des modèles juridiques qui créent une sécurité pour ces écosystèmes, pour que ceux-ci ne soient pas endommagés par les activités humaines. Et donc, et notamment, il s'appuie du coup sur le travail des associations écologistes pour dire peut-être que les associations écologistes pourraient être le visage humain de ces écosystèmes, pour être les tuteurs légaux de ces écosystèmes et les représenter. Alors, il évoque notamment tout un tas de compétences que pourraient avoir les associations écologistes. Évidemment, le fait de représenter les droits en justice lorsque ces droits de la nature sont lésés, mais aussi la possibilité d'être presque des administrateurs ad hoc dans certaines situations, et c'est très novateur à l'époque, mais Christopher Stone fait un parallèle avec la sécurité des entreprises. Lorsque, vous savez, une entreprise est en défaut de paiement et qu'elle fait face à une procédure peut-être de liquidation parce que justement elle n'est plus capable de répondre à ses dettes, eh bien on nomme des administrateurs ad hoc. Eh bien Christopher Stone dit on pourrait tout à fait imaginer la même chose pour la nature. Que quand un écosystème naturel se trouve dans une situation d'extrême urgence où il doit être préservé, sinon il fait face à sa destruction, eh bien Christopher Stone dit « Le juge devrait être capable de nommer des administrateurs ad hoc pour la nature à la demande des citoyens ou à la demande des associations qui se placeraient donc en tuteur de ces écosystèmes pour faire face justement aux projets, soit industriels, soit aux projets humains en général, d'urbanisation notamment, et donc pouvoir être les tuteurs légaux de ces écosystèmes. » Et donc, dans ce premier livre, vraiment, il aborde tout un tas de possibilités juridiques, mais aussi, il n'oublie pas l'aspect social, l'aspect philosophique et moral de la reconnaissance des droits de la nature. Et il vient vraiment souligner le fait que, dans l'histoire de l'humanité, donner des droits à autrui a toujours été considéré comme quelque chose de fou, voire même d'un peu dangereux, jusqu'à ce qu'on saute le pas. Jusqu'à ce que le déclic soit là, jusqu'à ce que la société soit prête. Et ensuite, eh bien, on se dit finalement, comment est-ce qu'on a fait avant ça ? Après, ça devient complètement banal. Et nous, on est en fait dans ce moment où justement, les droits de la nature sont passés par tout un tas de questionnements. On a trouvé ça intéressant, puis peut-être un peu dangereux, loufoque. Moi, ça fait 7 ans que je travaille sur ce sujet. Et je peux vous dire qu'au début, on criait un peu dans le désert, hein. Et aujourd'hui, c'est vrai, les gens nous prenaient un peu pour des hippies, c'est-à-dire est-ce que c'est de la pensée autochtone, est-ce que c'est quelque chose qu'on voudrait plaquer sur le droit français, mais qui finalement issu de la philosophie maori, parce qu'il y avait beaucoup de ces questions-là. Et aujourd'hui, ça devient un sujet, je dirais, incontournable dans la question du droit de l'environnement. C'est est-ce que le droit de l'environnement tel qu'il est aujourd'hui est satisfaisant? La réponse est bien évidemment non, vu la crise écologique que nous traversons. Et donc, le mouvement des droits de la nature est vraiment rentré dans cette phase où il s'impose comme un débat essentiel. Et vous trouvez, par exemple, aujourd'hui, ça a été publié ce matin, dans Le Monde, un très bon article de décryptage, justement, avec les penseurs du mouvement des droits de l'environnement et des droits de la nature, pardon, qui a été publié ce matin pour compléter ta revue de presse introductive. Voilà.
Bien, alors, justement... Peut-on accorder des droits à toutes les instances de notre environnement ? Parce que c'est une question qui se pose. Et comment on définit les critères qui vont permettre justement de donner des droits aux arbres, aux montagnes, aux roches. On avait le plaisir aussi d'avoir Antoine Choupeau qui hier nous parlait de la Bruxelles, d'une eau qui était remontée et des marais qui s'étaient construits. Et une grande biodiversité est intervenue là-dessus, sur un ancien chantier. Tous les investisseurs se sont retirés puisqu'effectivement, on ne pouvait pas enlever l'eau. Est-ce qu'on peut donner un droit à ce marais? Comment on donne des droits? Comment on détermine? Et puis après, une autre question, comment seront désignés les gardiens de cet espace?
Alors, pour vous répondre, les premières décisions qui touchent aux droits de la nature, elles remontent à 2008. Donc, on a déjà un petit peu de recul sur ce qui se fait et ce qui est réaliste et faisable juridiquement. Donc, 2008, c'est la reconnaissance des droits de la terre-mère dans la constitution équatorienne. Donc, un processus référendaire où le peuple d'Équateur a voté à une grande majorité l'introduction des droits de la nature dans l'article 71 du texte qui reconnaît donc les droits de la Pachamama, de la terre-mère, et qui donne aussi aux citoyens la possibilité d'agir en justice pour représenter les droits de la nature. C'est un outil qui a désormais fait environ une cinquantaine de jurisprudences, dont deux récemment, notamment une sur un parc, le parc de Los Cedros, où justement des activités minières voulaient s'implanter et où le juge a soulevé l'incompatibilité entre ces activités minières et la protection des droits de la nature et a tout simplement annulé les permis qui avaient été délivrés. Et encore un cas en Équateur assez récent et très intéressant, le cas Estrelita, qui est un petit singe qui avait été braconné dans la forêt. Et le juge d'Équateur a considéré que non seulement donc, la terre-mère a des droits, mais en plus, l'ensemble des entités qui composent la terre-mère en ont aussi. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, c'est qu'il a fait découler de l'article 71 de la Constitution équatorienne le fait que les droits de ce petit singe avaient été violés parce qu'il avait le droit de vivre dans la forêt, parce que c'était le seul endroit compatible avec ses exigences biologiques. Et donc, il a non seulement condamné la personne qui avait braconné ce petit singe, mais aussi les services vétérinaires de l'État, qui ne l'avaient pas replacé dans des conditions compatibles, du coup, avec ses exigences biologiques. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, parce que le juge, dans cet arrêt, est venu dire tout simplement qu'il n'y a pas besoin de définir l'ensemble des droits de la nature. C'est au juge, et c'est aussi à l'État, de faire une interprétation au cas par cas des besoins de ces animaux ou de ces entités naturelles. Et donc, le fait de donner des droits fondamentaux en fait à la nature revient finalement à dire nous, êtres humains, devons considérer l'autre dans ses besoins. Et ça, c'est quelque chose qui, dans notre droit, est en fait, je dirais, sous-jacent, mais pas encore assez mis en lumière. Parce que je vais soulever un exemple. Et je ne vais pas vous faire un cours de droit, ne vous inquiétez pas, parce qu'il est beaucoup trop tôt pour ça. Mais on a, dans notre code rural, figurez-vous, un article qui prévoit exactement la même chose. Chaque propriétaire d'un animal doit placer celui-ci dans des conditions compatibles avec ses exigences biologiques. C'est écrit noir sur blanc chez nous. Mais je vous invite à faire un tour dans un élevage porcin pour voir à quel point c'est bien appliqué. Et c'est le problème. C'est en fait exactement le problème. C'est qu'on a besoin, en fait, dans notre droit, de reconnaître des droits à autrui, parce que le problème actuel, c'est que prévaut à cet article du Code rural, qui a l'air très bien comme ça sur le papier, l'article du Code civil, que les animaux sont en fait la possession des êtres humains et qu'ils disposent donc de ceux-ci pour les exploiter, pour les tuer et les transformer, mais aussi pour les vendre. Et donc, on a comme ça un rapport éthique, une forme d'éthique juridique dans notre droit qui contrevient en fait à une éthique qui est aujourd'hui celle de notre société qui avance vers plus de sensibilité vis-à-vis du vivant. Et donc en fait, dans l'évolution de ce mouvement des droits de la nature, on a à la fois une lecture de plus en plus extensive du juge, c'est l'exemple équatorien, mais c'est aussi, comme en Nouvelle-Zélande, la possibilité d'inscrire les droits de certains écosystèmes dans des textes de loi. C'est ce qui s'est passé avec le fleuve Whanganui, donc en Nouvelle-Zélande, qui a été reconnu comme sujet de droit et qui a désormais donc deux gardiens nommés pour représenter cet écosystème, deux tuteurs légaux, un nommé par le gouvernement et l'autre nommé par les représentants maoris. Et selon l'adage maori, il lui revient à ce conseil des gardiens d'être le visage humain du fleuve, c'est-à-dire d'être la voix et le visage finalement de cet écosystème pour parler uniquement en son nom. C'est-à-dire qu'encore une fois, il ne s'agit pas d'être un médiateur, de trouver un équilibre, mais là, pour le coup, d'être comme un parent qui parle pour représenter les intérêts de son enfant. Et ça, encore une fois, juridiquement, on sait faire. En France, on sait parfaitement faire. Un tuteur légal parle au nom de son enfant ou de son parent lorsque celui-ci n'est plus capable de parler pour lui-même. Ce sont des mécanismes juridiques que nous connaissons parfaitement. Par contre, l'éthique et la philosophie qui sous-tend ce mouvement-là, il est complètement différent dans le sens où, pour une fois, on place les besoins de la nature au centre du débat. Ce que nous ne faisons pas avec le droit de l'environnement actuel, puisque finalement tout se limite à savoir de quoi nous avons besoin, nous, êtres humains. Comment nous gérons la nature. Et tout ce que nous avons autour de nous est un ensemble de ressources exploitables, un gisement de biens, que ce soit nos forêts, qui sont exploitées pour une grande partie dans un but économique, que ce soit les quotas de pêche, qui sont délivrés sans même tenir compte véritablement de l'épuisement des ressources halieutiques, mais que ce soit aussi tout simplement le sort qu'on réserve à ces millions d'animaux qu'on tue chaque jour dans les élevages intensifs et dans les abattoirs. Et donc il y a une vraie question aussi au cœur de ce mouvement de l'éthique relationnelle vis-à-vis du vivant et de sa traduction en fait en droit. Parce que le droit, c'est ni plus ni moins qu'une traduction d'une vision politique qu'on a, d'un objectif qu'on se fixe en tant que société et d'un avenir qu'on veut construire en commun. Et le mouvement des droits de la nature replace du coup au centre la question notamment de la relation aux autres, aux non-humains et de cette éthique vis-à-vis des autres qui ne sont pas uniquement des objets inertes qui nous entoureraient pour nous servir, mais au contraire des sujets à part entière. Et on le sait aujourd'hui, c'est vrai pour les animaux, mais c'est aussi vrai pour les végétaux, qui sont à la fois des êtres vivants, individuels, dotés de sensibilité, et pourtant qui n'ont aucun statut juridique dans notre société. Et donc c'est tout ça que vient mettre en question justement le mouvement des droits de la nature, par le biais du droit, par le biais de la sociologie, de la philosophie, de la morale, et qui vient questionner véritablement comment on refonde une société qui s'applique justement à représenter non plus uniquement les intérêts des humains, mais aussi les intérêts des non-humains. Et c'est pour ça que c'est aussi très largement un mouvement citoyen de personnes qui sont engagées sur le terrain, qui font face à des projets destructeurs et qui du coup utilisent le mouvement des droits de la nature pour contester les lois existantes, dire ces lois sont injustes. Ces lois sont profondément injustes et en plus, elles sont irrationnelles au regard de la science. Nous les remettons en question parce que nous nous appuyons sur ces droits de la nature qui non seulement s'appuient sur du bon sens, le fait que, en tant qu'êtres humains, nous appartenons au vivant, nous sommes vivants. Et donc, du coup, nous avons besoin d'un droit vivant, d'un droit biomimétique qui respecte la science et les connaissances scientifiques, mais qui aussi replace l'humain dans une relation éthique vis-à-vis des autres non-humains. Et donc, c'est un peu tout ça que vient questionner ce mouvement. Et puis, pour vous dire à quel point ça va vite en ce moment, le 30 septembre dernier, donc il y a à peine quelques semaines, l'Espagne est le premier pays à avoir reconnu des droits à la nature par le biais d'un combat qui a été porté pendant des dizaines d'années par des associations écologistes sur le terrain auprès de la Mar Menor, qui est la plus grande lagune salée d'Europe, et qui s'est vue attribuer donc désormais une loi qui reconnaît ses droits fondamentaux et qui nomme aussi 7 gardiens désormais qui sont chargés de représenter les droits de cet écosystème pour une raison très simple, c'est qu'en fait, sur ce territoire, les lobbies agricoles avaient fait un énorme travail de sape pour pouvoir continuer à polluer l'eau de cet écosystème qui faisait face à un problème d'eutrophisation grave et régulièrement, du coup, des morts de poissons qui coupaient l'oxygène asphyxié dans la lagune. Et les citoyens se sont mobilisés par le biais de ce qu'on appelle l'initiative citoyenne législative en Espagne qui a permis à ce qu'après une collecte de plus de 600 000 signatures, ils apportent une loi devant le Congrès espagnol pour demander la reconnaissance de cet écosystème. Donc en fait, le mouvement des droits de la nature, aujourd'hui, il est à nos portes, chez nos voisins. On sait que juridiquement, on peut faire, qu'il n'y a absolument aucun problème juridique en droit français et communautaire. La question est comment on le porte. Alors c'est tout le travail qu'on fait avec Wildlegal justement en France, comment on le porte pour intégrer les droits de la nature sur notre territoire, dans nos territoires, et s'infiltrer pour justement obtenir la reconnaissance des droits des fleuves, des montagnes et de tous les écosystèmes vivants sur notre territoire.
D'ailleurs, à ce propos, il y a eu le fameux Parlement de la Loire, donc dans les minutes ont été écrites par Camille de Toledo. Voilà, c'était il y a quelques mois. Et puis, il y a quelques jours aussi, à Uzès, le Parlement des liens, justement, où on parlait également du droit de la nature, mais surtout du rapport qu'il y avait entre nous et ce qu'on appelle la nature. Alors, j'aime de moins en moins ce terme. Je l'utilise un peu à défaut d'autre chose, mais c'est vrai que je l'aime de moins en moins parce que j'ai l'impression de toujours laisser à l'extérieur ce qui nous compose nous-mêmes. Et c'est un petit peu difficile. Alors, ça veut dire que les êtres humains ne peuvent plus intervenir sur les arbres, sur la nature. Comment allons-nous nous comporter ? Comment allons-nous faire ? Parce que, voilà, comment on fait ? On va pouvoir discriminer ce qu'on peut utiliser pour notre vie, puisqu'on se nourrit, on se chauffe, on se déplace, etc. Et puis, avec qui on collabore. Et puis comment on évalue ce qui relève de l'exploitation indécente et de l'économie de subsistance, pour reprendre le terme de Geneviève Pruvot.
Ben c'est ça. En fait, c'est ce qui est très intéressant, c'est que le mouvement des droits de la nature, comme le mouvement MeToo ou Black Lives Matter, il est là pour aussi répondre à cet objectif de décoloniser nos esprits. On est obligé de déconstruire tout ce qu'on pensait pour acquis, justement le fait de tout simplement pouvoir se servir de la nature comme cet ensemble de ressources exploitables et de gisements de ressources naturelles. Et je lis des fois aussi de flux de services écosystémiques. Alors là, on se rend compte à quel point on a vraiment banalisé la financière du vivant. On utilise des mots qu'on applique et qui viennent de la finance, et parfois même. J'avais la discussion l'autre jour avec des représentants de la collectivité territoriale en Corse. On est obligé de dire combien valent ces services écosystémiques pour que les gens se rendent compte, en fait, de la valeur du vivant. Donc, en fait, il faut déconstruire l'ensemble de ce prisme de lecture, c'est-à-dire de dire, mais en fait, la valeur de la nature, c'est la valeur pour elle-même, pas pour les humains. Et ça, c'est extrêmement difficile dans un monde où on a complètement occulté cette valeur pour elle-même, et on s'est toujours posé finalement que la question de savoir combien ça a de valeur pour nous, combien ça nous rapporte à nous, à quoi ça nous sert. Et donc, il faut complètement remettre en question ces choses-là. C'est quelque chose qui est long. Regardez en Équateur, je vous dis, 2008, la reconnaissance des droits de la nature, dans un pays où il y a un impact de la culture et la vision, de la cosmovision autochtone qui est quand même relativement fort, des mobilisations autochtones très présentes dans le débat public, eh bien, même en 12 ans, le processus est long. Le juge continue à lire dans la loi de nouvelles définitions, de faire de nouvelles jurisprudences, etc. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est quelque chose de profond, de difficile, et qui pose, comme tu viens de le dire, en fait, la question de transformer notre relation vivante. Moi, j'aime bien justement trouver chez les peuples autochtones des réponses à ça, dans le sens où, en fait, on ne se pose jamais la question, du coup, de ce qu'on rend à la nature. C'est-à-dire que pour répondre à la question de à quoi on va se limiter, finalement, quelles seront désormais nos interactions vis-à-vis de la nature, j'aime bien répondre par quelque chose d'assez d'une autre question, en fait, c'est de savoir ce qu'on prend à la nature doit être corrélé à ce qu'on peut rendre à la nature. Tout simplement parce que ce lien d'interdépendance, il ne peut être aussi juste que si on se pose cette question-là, si on considère que finalement on prend, c'est ce qu'on a fait jusqu'ici, et qu'on ne se pose jamais la question de qu'est-ce qu'on donne en retour, eh bien du coup le rapport de force il est faussé, la relation est complètement distendue. Et donc du coup, et je l'ai vu chez de nombreux peuples autochtones, que ce soit en Guyane, comme je le raconte dans mon livre, mais comme je l'ai vu aussi en Amérique du Nord, en Maroc, en Tunisie, en travaillant avec les peuples là-bas, qu'en fait, eux, cette question, elle est sous-jacente à toute leur relation vis-à-vis de la nature. On ne prend jamais ce dont on n'a pas besoin. Je vais prendre un exemple, parce que j'ai travaillé sur les industries minières et pétrolières, avec le collectif Hors de Question. La manière dont on s'est mobilisé, c'était beaucoup en donnant la parole aux peuples autochtones en Guyane et en rendant vraiment leur message ultra audible et entendu ici en métropole, parce qu'il y avait une chose qui était sous-jacente chez les peuples autochtones de Guyane, c'est le fait qu'en fait, l'or présent sous terre est l'énergie de la terre. On n'ouvre pas la terre, sauf pour deux raisons, enterrer ses morts ou trouver de l'eau. Et eux considèrent que finalement, ouvrir la terre, c'est aussi s'attirer des problèmes. C'est aussi dérégler l'énergie du vivant. Et ça peut prêter à sourire. Évidemment, on peut se dire, oh, bah, c'est des croyances. Et je ne vous le dis pas par exotisme. Je vous le dis parce qu'en fait, je crois que derrière tout ça, il y a une vision au contraire très profonde. C'est de se dire tout simplement, ce qu'on ne peut pas rendre à la Terre, on ne le prend pas à la Terre. Et ça, je l'ai retrouvé aussi au Maroc, dans les mines d'améthyste ou dans la vallée du Drac. On ne prend pas des choses, notamment dans la mine, sans faire une contrepartie, une offrande vivante, en l'occurrence, on sacrifiait un animal à l'époque quand il fallait notamment chercher des bijoux, enfin faire des bijoux avec des pierres pour les mariages. On sacrifiait toujours une offrande avant parce qu'il fallait rendre quelque chose à la terre pour ce qu'on lui prenait et qu'on ne pouvait pas rendre autrement. Et en fait, ça peut avoir l'air d'être juste un ensemble de croyances. Moi, je pense que c'est un rapport éthique vis-à-vis du vivant, une sorte de fil rouge qui guide tout simplement le fait qu'il faut avoir une relation à la Terre où on donne quelque chose en retour pour ce qu'on prend. Et de la même manière, par exemple, en Guyane, les femmes collectent les fruits des arbres en chantant en retour pour remercier. Ça peut être des pratiques de cet ordre-là, des petites choses, des petits chants. Ça peut être des sacrifices, parce que pour des peuples qui sont nomades et qui vivent dans le désert, sacrifier un être vivant, c'est extrêmement important. Et chez nous, on doit se poser la question désormais, on a beaucoup prié au vivant, qu'est-ce qu'on lui rend ? Comment on crée aussi une relation juridique où du coup, lorsqu'on prend quelque chose à la nature, eh bien, on lui rend aussi quelque chose en retour. C'est un peu ce qu'on a tenté de faire avec la compensation écologique. C'est pas comme si c'était pas déjà là et que je disais quelque chose de totalement aberrant. C'est déjà ce qui sous-tend l'idée. Sauf que, contrairement à l'idée de compensation écologique, qui nie l'individualité du vivant, puisque, en fait, on considère dans notre société que, en fait, un arbre vaut un arbre, qu'un animal vaut un animal. Il n'y a que nous, en fait, qui ne sommes pas interchangeables, finalement. Et ça, c'est problématique. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas y avoir de compensation en fait, dans un modèle juridique viable vis-à-vis du vivant. D'ailleurs, on le sait, un vieil arbre ne vaut pas un jeune arbre. Si on raisonne juste en termes de bilan carbone, c'est une aberration. Et en fait, même d'un point de vue éthique, c'est une aberration. Parce que si vous rasez une forêt, c'est pas juste une forêt, c'est un écosystème. Ce n'est pas juste un certain nombre d'arbres ou un certain nombre d'hectares d'arbres. C'est tout un tas de relations animales, végétales, avec des champignons, des relations qui sont difficiles et complexes et qu'on ne peut pas compenser différemment. Et donc, du coup, il y a vraiment cette question de comment on inscrit dans le droit des mécanismes juridiques qui font que non seulement on arrête cette erreur de la compensation qui ne peut pas se faire d'un point de vue purement éthique et philosophique, mais qu'on réfléchit au contraire à comment on rend meilleure la terre qu'on habite. Et pas comment on la transforme pour ensuite la remanier à notre guise. Et c'est quelque chose qu'on retrouve profondément ancré dans toutes les civilisations autochtones, par exemple, qui refusent notamment le rapport de propriété privée sur la terre et qui raisonnent au contraire en tant que gardien et en tant que protecteur de la nature, dans le sens où, en fait, on va restituer au vivant quelque chose de mieux pour pouvoir transmettre la terre à nos enfants. Et c'est vraiment tout le sens, en fait, aujourd'hui qu'on doit se poser. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs les discussions qu'on va forcément avoir cet hiver avec la transition énergétique, enfin plutôt la crise énergétique, puisque justement, on n'a pas géré la transition. Donc, avec la crise énergétique, la question va se poser de savoir quels sont nos besoins fondamentaux et donc comment on réduit drastiquement l'impact sur les écosystèmes. Or là, on est en train de faire... Par exemple, je prends un exemple sur lequel on travaille avec Wild Eagle. On est en train de développer l'éolien offshore sur le littoral français à une vitesse qui est absolument incompatible avec la protection de la biodiversité. C'est-à-dire qu'encore une fois, pour produire toujours plus d'électricité, toujours plus d'énergie pour nous, on va passer sous silence la destruction de dizaines d'espèces, dont certaines protégées, menacées, en voie d'extinction. Et donc, on va sacrifier pour nous, êtres humains, des espèces qu'on ne verra donc plus sur le littoral français et qui, elles, voient leur habitat disparaître pour que nous puissions assurer nos besoins énergétiques. Ça pose une vraie question d'éthique, ça pose une vraie question de rapport à la science aussi et de ce qu'on met comme valeur, pour le coup, parce qu'on le sait et les scientifiques nous le disent, par exemple, il suffirait de reculer de 40 km ces installations éoliennes offshore de nos côtes pour pouvoir préserver ces habitats pour les espèces qui en ont besoin. Eh bien, pour des raisons financières, on ne le fait pas. Et donc, du coup, ça pose des vraies questions vis-à-vis du droit, d'une part, qui tolère ce genre de choses. Alors ça vaut quoi de faire des longues listes d'espèces protégées si c'est ensuite pour ne pas les respecter ? Juridiquement, bah, nous c'est un problème en tant que juristes. On se bat pour faire appliquer la loi, mais à la tête du client, on fait des projets qui ensuite dérogent à la règle. Donc, c'est quand même très compliqué. C'est pour ça aussi que je m'intéresse au droit de la nature, parce que honnêtement, quand on voit l'applicabilité du droit actuel et le clientélisme politique, ça vaut pas la peine d'utiliser le droit actuel. C'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser au droit de la nature. Et puis donc, du coup, ça pose vraiment cette question juridique de comment on refonde un droit dans lequel, justement, oui, on a besoin d'électricité, oui, on a besoin d'énergie, mais on n'a pas le droit pour ça de sacrifier les autres non-humains autour de nous, surtout si on ne pose pas la question d'abord de nos besoins essentiels et de se, justement de se reconcentrer sur ces besoins essentiels.
Bien. Donc vous avez parlé un peu de d'évolution. Il y a quand même eu quelques évolutions, quand même, effectivement, pas, je trouve pas trop en France, hein, même s'il y a eu un Grenelle de l'environnement qui est un désastre. Voilà, même si en 2004 on a remis la charte de l'environnement dans la Constitution, on s'aperçoit que tout ça ne sert à rien. La preuve en est, c'est qu'il y a quelques jours, la France a été condamnée pour inaction climatique, a versé 30 millions d'euros à des associations pour non-respect des normes concernant la qualité de l'air. L'eau n'étant pas conforme dans 25% des communes, ce n'est pas grave. On n'a pas réfléchi à le traitement de l'eau. On a remonté les normes, les seuils pour dire que bah, elle était conforme. Donc aujourd'hui, on a 100% des eaux qui sont consommables. Je peux vous en donner. L'agriculture a créé la haute valeur environnementale, qui en fait, des viticulteurs même, c'est la haute valeur d'enfumage. Donc on voit bien qu'on crée des normes. On crée des normes, des lois qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas respectées. Et il est vrai, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des moyens de détourner la loi. Alors, on va peut-être en reparler après, parce que je voudrais quand même vous poser une question. Parce que ça fait plusieurs... C'est une question qui me taraude un peu et qui est un peu dans les droits, mais je veux savoir quelle est la place de la femme à l'intérieur de... Justement, en termes de gardien de la nature. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. La plupart des écoféministes, et j'ai l'impression que vous travaillez dans une perspective écoféministe, et hier, Antoine Chopot, quand il parlait justement à Bruxelles de ce marais, il disait « ce sont les femmes qui l'entretiennent ». Vous avez parlé des femmes. Vandana Shiva, Maria Mies, Jeanne Garguttal, Sylvia Federici, je voudrais rappeler ce livre merveilleux de Sylvia Federici qui s'appelle « Caliban et la sorcière », où elle montre bien que les hommes, les capitalistes, se sont appropriés le corps des femmes pour reproduire les travailleurs. Je résume un peu, hein, mais c'est... Voilà, donc il y a bien cette appropriation, cette exploitation des femmes. Et alors, je voulais vous demander, est-ce que les femmes sont les meilleures gardiennes de la nature ?
Ben, alors moi, à cette réponse, je dirais qu'il peut y avoir effectivement une forme d'alliance, je trouve, dans l'écoféminisme, entre la femme et la nature, dans le sens où j'aime bien citer un article de notre code, le premier trait sur les femmes dans notre code civil, hein, qui a été modifié depuis évidemment, mais qui énonce que la femme est donnée à l'homme comme l'arbre fruitier est donné au jardinier, c'est-à-dire pour lui faire des enfants. Et donc, en fait, l'objectivation de l'arbre et la relation utilitariste de l'arbre, on la retrouve aussi dans la relation utilitariste du mari envers sa femme. C'est la première mouture du code civil, mais vous imaginez à quel point notre société, il y a à peine 200 ans, ressemblait à cette société patriarcale qui aujourd'hui nous semble tellement surannée et qui pourtant est toujours là. On le voit avec les débats qu'on a dans la sphère politique, on l'a vu avec les derniers scandales, je veux dire, la relation de domination et d'utilisation, elle est toujours présente. Et donc, pour moi, il y a une alliance, évidemment, évidente entre les femmes et en fait entre tous les dominés. Parce que j'en parlais l'autre jour avec ma belle-mère. Alors, je vous raconte une petite anecdote, mais ma belle-mère est une fervente féministe et puis elle lisait un de mes articles sur les crimes d'écocide. Et elle dit, c'est marrant parce que quand je lis ce que tu dis sur l'écocide, ça me fait penser à ce qu'on disait sur le viol il y a encore quelques années. Et ça m'a fait sourire quand je me suis rendu compte qu'en fait, Le livre de Christopher Stone a été publié la même année que la plaidoirie de Gisèle Halimi, vous savez, la fameuse plaidoirie sur le droit à l'avortement, où justement, après un viol, une jeune femme avait avorté illégalement et s'était retrouvée devant un parterre de magistrats uniquement masculins pour plaider sa cause et son droit à disposer de son corps. Et Gisèle Halimi rappelle le code civil, l'origine du code civil, et puis c'est aussi dans le rapport au viol. Finalement, l'histoire des violences sexuelles en général, une invisibilisation de la violence faite aux femmes, une décrédibilisation de cette parole des femmes qui se libèrent, et puis un amoindrissement de la gravité des faits, parce que systématiquement, les viols n'étaient pas considérés comme des crimes, mais comme des délits, c'est-à-dire des infractions mineures. Et que la voix des femmes, du coup, notamment devant ces parterres de magistrats masculins, était décrédibilisée. On considérait que violer une femme, soit elle l'avait cherchée, elle n'était pas au bon endroit, pas au bon moment, pas bien accompagnée, et que finalement, ce n'était pas un crime d'exercer des violences sur le corps de la femme. On a eu les mêmes débats sur l'écocide et sur les violences commises contre la nature. Quand je me suis retrouvée face à M. Dupond-Moretti, il m'a expliqué qu'il n'y avait pas de crime contre la nature, que ça ne pouvait pas être, qu'il y avait des délits de pollution, mais que causer des torts à la nature, ça ne pouvait pas être un crime. Il me disait notamment que pour des raisons aussi de justice, on ne pouvait pas criminaliser, parce que vous comprenez, criminaliser l'écocide, ça voudrait dire qu'on doit passer devant les assises. Parce que c'est comme ça qu'on juge les crimes aujourd'hui. Il y a le correctionnel et puis il y a les assises. Or, vous imaginez bien, madame, le citoyen n'y comprend strictement rien. C'est sûr, on relaxerait toutes les grandes entreprises polluantes, parce que le citoyen ne comprend rien. Je vous remets en contexte, j'étais accompagnée des membres de la Convention citoyenne pour le climat, qui demandent à la reconnaissance du crime d'écocide, donc ils leur crachent à la face, en leur expliquant que le citoyen n'y comprend rien. Et après ça, alors qu'on lui proposait de créer des juridictions spécialisées, hein, justement, comme on le fait, par exemple, pour les juridictions pour les enfants, parce que ce sont des cas extrêmement complexes, évidemment, mais qu'il faut intégrer aussi les citoyens dans cette réflexion. Je mets en contexte, hein, quand même, actuellement, il y a une très grande partie des infractions commises contre la nature qui ne sont pas, justement, jugées, mais qui font l'objet, en fait, de petits accords avec les magistrats et la justice pour, justement, malheureusement, que les responsables s'en sortent et qu'on fasse un accord sur la remédiation, la réparation, etc. Mais il y a très peu de procédures qui vont jusqu'au bout. Alors nous dire en plus que les citoyens n'y comprennent rien et que ça conduirait à la relaxe, c'est vraiment une injure. Et donc, il y a vraiment un parallèle assez évident, je trouve, entre cette alliance logique entre les femmes et la nature, dans le sens où l'oppression que nous subissons est finalement dans l'exacte ligne ou le reflet tout simplement d'une domination violente et notamment issue, j'aime pas dire masculin parce qu'en fait on remet en question aussi les questions de genre attribuées uniquement aux hommes, la violence, je dirais plutôt c'est au trait, au genre masculin et à du coup cette domination et cette violence qui s'exerce sur le corps des humains et des non-humains, eh bien, d'intégrer cette réflexion dans une déconstruction justement à la fois juridique. Pourquoi est-ce que dans notre société, considérer qu'il y a des crimes contre la nature paraît si aberrant? Qu'est-ce qui, dans notre relation aux autres, fait qu'on considère d'office que porter atteinte à la nature n'est pas grave? Parce que c'est ça, en fait, qui sous-tend cette question. Qu'est-ce qui fait que nous sommes si insensibles, si apathiques face à la souffrance d'autrui, même s'il est non humain? Comment ça se fait que... Alors qu'il y a plein de gens, justement, sur le territoire aujourd'hui qui s'offusquent de la pollution de leurs rivières, de la disparition de leurs glaciers. Et je les vois, parce que je travaille notamment sur la reconnaissance de petits écosystèmes de rivières. J'étais cet été sur le Chiran et le Nambénin, qui sont deux torrents de rivières. Bien, les gens qui vivent dans les montagnes, en Savoie et Haute-Savoie, ils vous disent « on a peur ». On n'a jamais vu nos glaciers fondre à une vitesse comme ça. On voit nos rivières se tarir. C'est eux, ils le sentent, cette empathie, elle est là. Une empathie qui transcende la question justement de l'espèce, puisque là, pour une fois, on retrouve, avec la disparition de nos fleuves, de nos rivières, et puis la mort de nos forêts, enfin la conscience qu'il faut développer cette empathie, qu'il faut au contraire la nourrir et en avoir pleinement conscience, parce que c'est que quand on est en empathie avec autrui, qu'on peut enfin régler cette question aussi de cette violence intrinsèque à la construction du monde capitaliste. Et donc c'est vraiment par le biais aussi d'une relation, je dirais, de solidarité des femmes, des opprimés en général et de la nature, qu'on est obligé de redéconstruire aussi par le droit, de réaffirmer que oui, porter atteinte à la nature est un crime, c'est grave, ça porte atteinte à la condition même de l'existence sur Terre désormais, et franchement, il est plus que temps justement d'intégrer pleinement cette violence et de faire un droit, alors, de la nature, un droit pénal, environnemental aussi, qui soit vraiment... qui fasse sentir à ceux qui se rendent coupables de ces actes qu'ils n'ont plus carte blanche et que c'est fini l'impunité, justement, qu'il faut se remettre en question. Et c'est ça qui leur fait peur. Je ne raconte pas la tête, justement, du MEDEF quand on leur disait « bah oui, bah, y a certaines activités qui relèvent clairement de l'écocide, notamment les industries minières. » Et j'étais avec des chefs d'entreprise qui nous disaient « mais il y a un problème avec ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, l'État nous autorise à faire ce qu'on fait. » Et oui, c'est vrai. Et il y a une collusion évidente. Et ils nous disent, mais vous ne pouvez pas d'un coup nous dire qu'on va nous donner carte blanche et ensuite nous arriver avec le bâton par-dessus. Je dis, ben si, le problème, c'est qu'en fait, vous, vous faites du chantage à l'emploi. Vous, vous faites peur aux gens en leur disant que du coup, l'activité va s'effondrer, que le monde va disparaître sans les entreprises. Nous, on vous dit qu'au contraire, si on veut sauvegarder notre planète, il va falloir qu'on mette un holà à tout ça. Et aujourd'hui, on a besoin d'un droit pénal à la hauteur des enjeux. Et oui, dans certaines situations où malheureusement, bah, l'administration a donné des droits à détruire la planète, il faut que le juge puisse venir rééquilibrer les forces en présence et pouvoir condamner non seulement le crime d'écocide, mais aussi toutes les autres actions commises contre la nature.
Alors justement, avant de laisser la parole quand même à la salle, parce qu'on va laisser la parole pour avoir un échange, quelle loi serait essentielle aujourd'hui, à cet instant, pour un changement rapide de nos sociétés? Et comment nous, qui sommes ici réunis, pourrions-nous nous mobiliser pour faire aboutir ces lois? Quelle forme d'action? Voilà, donc c'est une question à deux niveaux. Est-ce que vous avez un peu quelques éléments à nous donner?
Oui. Heureusement, quand même, on travaille sur des propositions, justement, parce que ce n'est pas tout de dire ça va mal. Il faut aussi énoncer. Alors, moi, j'ai trois solutions à vous proposer, trois solutions juridiques pour lesquelles on plaide avec l'association Wild Legal. La première, c'est la création d'une haute autorité sur les limites planétaires. On a défendu aussi avec la Convention citoyenne pour le climat, créer une instance supraministérielle qui soit en charge de vérifier la compatibilité de nos lois, de nos règlements et de l'ensemble des programmes menés sur nos territoires avec les limites planétaires. Parce qu'on ne peut plus aujourd'hui avoir des politiques qui soient décorrélées du fait scientifique et qui aujourd'hui, malheureusement, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Haut Conseil pour le climat, voilà, environ 2% des lois passent par un filtre climatique, c'est-à-dire... on fait un bilan carbone des lois qu'on énonce. Et c'est extrêmement grave, c'est-à-dire 2%, vous imaginez en fait le nombre de lois qui sont en fait en totale opposition, voire incompatibles du coup, avec notamment les engagements de l'accord de Paris. Mais ce n'est pas uniquement les accords de Paris, parce qu'en fait, la question climatique aujourd'hui, elle doit être étendue aux 9 limites planétaires pour savoir si oui ou non, on a des politiques qui sont compatibles avec la protection de la biodiversité aussi. Je prends l'exemple, par exemple, de ce que je vous disais tout à l'heure sur l'éolien offshore. Si on regarde la question de l'éolien offshore uniquement à travers l'angle du bilan carbone, c'est super. Si on regarde l'impact sur la biodiversité et qu'on écoute le Conseil national de protection de la nature, qui est quand même le conseil où il y a tous nos experts en matière de protection des espèces, qui dit que c'est incompatible complètement avec la protection de la biodiversité, on a un problème. Donc ça faisait partie d'une de nos mesures portées avec la Convention citoyenne pour le climat, créer cette haute autorité qui nous permette de filtrer et de faire rentrer en fait nos lois dans les limites planétaires, afin justement de créer un lien évident et logique entre les politiques qu'on porte sur nos territoires et la préservation de nos territoires sur le long terme. Deuxième chose, évidemment, et sans surprise, c'est la reconnaissance des droits de la nature. Bon, avec l'alignement des planètes actuelles, c'est pas possible d'attendre une loi ou une constitution. Honnêtement, nous, en tout cas, avec Wild Legal, on a fait le pari de ne pas attendre ça, parce que vu la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, on peut pas espérer demain une grande loi qui reconnaisse d'un coup des droits à la nature. on s'est pris une violente gifle avec l'écocide. On ne va pas remettre 10 balles dans le jukebox et aller encore une fois mettre une énergie monstrueuse à défendre un truc qu'ils vont au mieux greenwasher, au pire rejeter. Donc, notre stratégie avec l'association, c'est qu'on mène une expérimentation au niveau local. On agit avec des acteurs de territoire pour passer justement, comme je vous disais, avec le Chéran, le Nambénin, les élus, les associations, les syndicats de gestion des eaux, les parcs. En fait, on essaie d'intégrer les droits de la nature dans tous les documents qui sont à notre disposition localement. Donc, les plans d'urbanisme, les documents de gestion et de planification sur l'eau, les chartes de parcs, les textes qui organisent les réserves nationales. On passe vraiment par tous les petits documents qui sont à notre disposition parce que justement, on a des élus qui veulent agir. Donc on a monté un programme sur les rivières sauvages avec le collectif Rivières Sauvages qui est un réseau d'hydrologues qui labellise des écosystèmes aujourd'hui encore préservés. Et j'étais encore récemment là en Corse, justement auprès des élus de la collectivité qui veulent agir et qui veulent justement trouver dans les droits de la nature aussi des réponses aux problématiques qu'ils rencontrent sur le terrain. Donc on a des élus, des associations et tout un tas de représentants de collectivités, de syndicats et autres qui justement veulent expérimenter les droits de la nature. Et nous, on travaille avec eux justement pour faire advenir. On pense qu'en s'infiltrant comme ça, et en démontrant à la fois l'efficacité, mais aussi le fait que cette évolution elle soit souhaitable en termes de gouvernance, eh bien que d'ici peut-être un prochain président, une prochaine présidente, eh bien on obtienne effectivement une loi, une nouvelle constitution sur le modèle de ce qui s'est fait ailleurs dans le monde. Et puis, la troisième proposition, c'est évidemment la reconnaissance du crime d'écocide, parce que c'est indispensable de faire bouger les lignes rouges en matière de criminalité vis-à-vis de la nature, et surtout parce que, du coup, dans une société, le droit pénal est vraiment le reflet de la sensibilité de la société à un instant T. Et donc, on doit faire évoluer aussi les lignes sensibles dans notre société, faire en sorte qu'on ne considère plus comme banal de détruire la nature, mais au contraire, que ça éveille enfin nos consciences. Et donc, comment on peut agir? Il y a en fait 10 000 façons d'agir, évidemment, notamment sur la question des droits de la nature. Si vous êtes, si vous faites partie d'une association, si vous êtes élu local ou agent de collectivité territoriale, travaillez avec nous, rentrez dans le processus d'expérimentation et faites en sorte que, justement, vous puissiez faire bouger les lignes sur votre territoire. Vous êtes citoyen, c'est pareil. Allez parler justement à vos élus de ce qu'on fait et de cette théorie des droits de la nature, parce qu'en fait, on le voit. Moi, je vous disais au début, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet en 2015, vraiment, on nous prenait pour des fous. Je veux dire, personne ne nous prenait au sérieux. Et aujourd'hui, et justement parce qu'un nombre assez conséquent de citoyens sur le territoire travaillent sur ces sujets, que ce soit justement en Savoie, en Corse, mais aussi on travaille dans le Var, on a un excellent élu à la mairie de Bordeaux qui travaille comme un acharné, Maxime Guéquière, qui est aussi élu écologiste, qui travaille comme un acharné sur les droits de la Garonne. C'est grâce aux gens dans les territoires qu'on arrive à faire progresser cette question, qu'on arrive à la faire connaître et que du coup ça progresse aussi vite. C'est-à-dire, moi, je suis étonnée, mais en 3 ans, ça y est, on enseigne les droits de la nature dans les universités, on tente de l'appliquer dans les territoires. La plupart des associations, justement, en ont aujourd'hui conscience. Et puis, on en parle dans des grands médias comme Le Monde. Voilà. Donc, c'était que. Oui, c'est ça. Et c'est Claire Legros qui s'est pris de passion de ces sujets. Elle est journaliste au Monde. Et voilà. Et donc, du coup, c'est rentré. Moi, j'espère que, en fait, demain, mon fils me dira « Mais en fait, on faisait quoi? Vous faisiez comment avant ?» Pour que lui, ça lui semble tellement bizarre de la manière dont on s'est... Il faut que les droits de la nature deviennent mainstream. Et en gros, pour ça, on a besoin de chacun et chacune d'entre vous. Parce qu'il faut faire connaître et passer, justement, ces nouvelles idées à l'intérieur de l'ensemble des pans de notre société.
Alors, une question qui pourrait fâcher. Pensez-vous, comme certains le proposent, qu'il faudrait une forme de dictature écologique, entre guillemets, et je veux bien entre guillemets ce terme-là, hein, pour pouvoir sauver notre planète, notre monde, et pouvoir faire aboutir un certain nombre de lois. Est-ce que vous pensez que la démocratie, aujourd'hui, est un cadre possible pour faire aboutir ces lois? Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, pas du
tout. Vous êtes intervenu, je sais, parce que j'ai lu l'article dans Le Monde.
Oui, non, non, mais c'est intéressant, mais parce
c'était
que...
C'était une provocation par rapport à cet article que j'avais lu.
Non, mais c'est très intéressant, parce que je vous explique aussi pourquoi il y a beaucoup de gens qui pensent que le mouvement des droits de la nature est un mouvement... c'est terrible, hein, mais des fois en conférence... Bon, j'ai un opposant, un juriste, un universitaire qui pense qu'en fait, les droits de la nature, c'est l'équivalent du droit nazi. Alors, sa pensée est un peu plus complexe que ça, mais en gros, pour lui, c'est justifier, il justifie les droits de la nature comme les droits naturels. Sauf qu'il y a une vraie différence, en fait, entre justement dire la nature a des droits et l'ordre du monde doit être régi par une vision de la nature. C'est ce que faisaient évidemment les nazis. Hein. Vous vous souvenez, le Lebensraum, donc l'espace naturel nécessaire pour les Allemands et qui justifiait du coup la colonisation et l'occupation d'autres territoires. Sauf qu'il n'y a rien de tout ça dans le mouvement des droits de la nature. Et j'ai même envie de dire, la tyrannie, elle est dangereuse pour le mouvement des droits de la nature. Parce qu'au contraire, je vous le disais au début, nous, on est dans une vision bioperspectiviste du droit. Il ne s'agit pas de plaquer l'imaginaire d'un individu sur l'ensemble de la société. Ce serait extrêmement néfaste, contre-productif. Au contraire, nous, on essaye de donner à des individus humains la responsabilité de représenter les autres, les non-humains. On a besoin absolument d'une démocratie efficace pour faire ça. Et on a besoin de gens qui ont du pouvoir, au contraire, mais qui peuvent représenter, non pas une personne, mais vraiment l'ensemble des composantes de notre société, de ce que nous, on appelle la communauté des vivants. Et pour ça, vous avez besoin d'avoir une démocratie saine, une démocratie où chacun peut participer, où chacun peut justement activement représenter les autres et pas uniquement lui-même. Aujourd'hui, dans notre société, au contraire, c'est ça ce dont on crève, c'est qu'on nous demande, nous, citoyens, d'aller voter pour déléguer notre pouvoir aux autres, duquel, du coup, on est privé dans le discours politique, parce que finalement, on délègue à nos élus la responsabilité de gérer nos fleuves, nos rivières, nos forêts, et nous, on n'aurait rien à dire. Moi, je suis garante du débat public, c'est-à-dire que je travaille aussi auprès du ministère de l'Environnement pour faire justement en sorte que les citoyens soient entendus et puissent participer dans les grands projets. C'est comme ça que j'ai rencontré Jacques Chimbaud, par ailleurs. Et c'est vraiment à l'idée même, c'est de pouvoir faire participer les citoyens. Mais pourquoi les gens n'y croient plus? Pourquoi les gens ne participent plus? Parce qu'ils pensent que les décisions sont prises à l'avance. Parce qu'ils pensent que même s'ils donnent leur avis, personne ne les écoutera. Parce qu'il n'y a pas une démocratie qui donne vraiment du pouvoir aux citoyens et aux habitants. Et justement, le mouvement des droits de la nature, comme on le voit justement s'implanter dans les territoires, c'est au contraire l'inverse. C'est-à-dire recréer des parlements de rivière, recréer des conseils de montagne, faire en sorte que chaque citoyen se sente responsable du lieu dans lequel il habite et puisse activement participer. Donc c'est tout l'inverse d'une dictature. C'est vraiment très loin de l'idée qu'on voudrait s'accaparer la protection du vivant. Et moi, je suis intimement persuadée que, justement, tout doit repasser par les territoires, qu'il faut recréer des démocraties locales et que c'est justement en réinscrivant le débat démocratique, non pas dans un discours entre êtres humains où on se partage finalement le gâteau. Et on va le voir dans les années qui viennent, hein. Par exemple, cet été, la question de la ressource en eau, elle va créer des conflits d'usage extrêmement violents, que ce soit les agriculteurs face aux industriels du tourisme, face aux grandes villes qui veulent capter l'eau. Vous allez avoir des clashs politiques, mais aussi peut-être même violents dans les années qui viennent, parce que justement, on n'aura pas été capable de protéger une vraie démocratie de l'eau. Et donc, il faut absolument justement sortir du dialogue uniquement entre êtres humains et se reposer et poser au centre du débat la question de la préservation de nos ressources sous la forme d'écosystèmes vivants auxquels nous appartenons et dont nous sommes entièrement dépendants. Et donc, du coup, notre rôle n'est pas à nous de nous partager le gâteau et de défendre nos intérêts privés, mais de savoir comment on se met autour de la table pour protéger cette communauté vivante à laquelle nous appartenons. Et donc, je pense que c'est vraiment tout l'inverse. Et dans tous les lieux où les droits de la nature éclosent, c'est vraiment tout l'inverse d'une dictature. C'est vraiment, au contraire, une nouvelle démocratie vivante et biomimétique qui se met en place.
Écoutez, merci. Je vais peut-être vous donner la parole, parce qu'il y aurait d'autres questions. Hein. C'est comment débloquer l'écocide et quels sont les principaux. Voilà, mais je pense que ça sera... Et puis, justement, quelle est l'importance aussi de l'inspiration? Quelle inspiration on peut prendre sur les peuples premiers qui vivent encore en symbiose avec la nature? Voilà, comment on peut créer une économie symbiotique, justement, nous, avec la nature, mais dans notre contexte à nous. Voilà, c'est toutes des questions qu'on peut peut-être aborder. Mais peut-être je vais vous laisser la parole, parce que je pense que c'est important aussi que vous puissiez vous exprimer. Je vais me lever. Voilà.
Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. J'ai trouvé que c'était très, très intéressant. En tant que militante, je me rends compte que la voie juridique est quand même bien souvent un outil à notre disposition et un outil dont il faut s'emparer et qu'il faut utiliser pour combattre des projets écocides. Simplement, c'est un petit peu épuisant parce qu'on a un peu l'impression de... on a connaissance d'un projet, on va mobiliser beaucoup d'énergie pour le contrecarrer et pendant ce temps, 10 autres projets aboutissent parce que les énergies militantes ne peuvent pas être partout. C'est un peu le jeu des taupes, où, vous savez, il faut taper sur une taupe et pendant ce temps, il y en a 2 autres qui sortent de l'autre côté. Donc c'est pour ça que je rêve effectivement d'outils juridiques qui permettraient aux citoyens de défendre a priori, d'ériger vraiment des barrières de sécurité autour de certaines zones là où ils vivent pour dire maintenant cet endroit-là pour nous c'est protégé, c'est fini, on n'y touchera pas. Ce que vous proposez rentre dans cette logique et je trouve que c'est chouette. J'aimerais attirer votre attention aussi sur la nécessaire protection, non pas d'espaces naturels à proprement parler, mais de certains espaces agricoles. Parce que moi, j'habite en région parisienne et on assiste en ce moment à des crimes que j'appellerais plutôt des crimes d'agrocide plutôt que des crimes d'écocide, c'est-à-dire qu'on est en train de bétonner des terres agricoles qui sont parmi les plus fertiles de France, si ce n'est d'Europe. Je prends l'exemple du plateau de Saclay et des terres de Gonesse qui sont extrêmement fertiles et qu'on est en train de recouvrir de béton. Voilà, et on est en train de construire une ligne de métro au milieu des champs. Donc pour aller où ? Pour aller nulle part, pour aller dans les champs. Et donc on comprend bien que le but de cette ligne de métro, c'est un cheval de Troie pour construire encore plus de béton sur des terres qui sont réputées pour être les plus fertiles d'Europe. Et ça, c'est un vrai problème quand on nous rebat les oreilles de résilience alimentaire, etc. etc.
Merci. Merci pour votre présentation. Moi, j'ai trouvé un point intéressant et qui m'a interpellée, c'est le fait de qu'est-ce qu'on peut rendre et prendre à la nature. Donc, vous avez mentionné le fait que les peuples autochtones, notamment, le font sous forme d'offrande. Et je me suis posé la question, nous, qu'est-ce qu'on peut rendre aujourd'hui à la nature, dont finalement, on a aussi une connaissance assez limitée des besoins. Et donc, moi aussi, j'ai pensé à la logique de compensation que vous avez mentionnée et dont vous a dit que ça ne marche pas. Et à l'inverse, ça permet aujourd'hui à des entreprises de légitimer une certaine exploitation des ressources et destruction de plein d'écosystèmes. Et je ne connais pas l'outil juridique, je n'ai pas une formation en droit et du coup des technicités de cet outil, mais je me demande comment on peut faire en sorte que cette idée de rendre quelque chose à la nature ne soit pas un moyen d'alléger finalement une conscience personnelle et de limiter la responsabilité finalement de nos actes, mais vraiment de faire en sorte que ça puisse préserver les écosystèmes, cette nature. Et voilà, donc comment l'outil juridique peut faire cela ?
Merci. Petite question sur la structuration des droits que vous évoquez. Vous parlez de conseil de montagne, de parlement de rivière, et vous avez dit que vous aviez pour l'instant éludé la question de promouvoir des droits de la nature à l'échelle du territoire national. Mais comment est-ce que vous proposer, quelle est votre proposition sur la structuration des droits de la nature en France, au moins, même si ce n'est pas une proposition que vous revendiquez devant le gouvernement ou au niveau national, mais est-ce qu'il y a une réflexion sur la structuration ? Est-ce que c'est plutôt très général comme en Équateur ? Est-ce que ce sera lié à un seul endroit comme en Nouvelle-Zélande ? Voilà. Quelles sont vos propositions à ce sujet ? Merci.
Très bien. Je vais faire le plus vite possible. Donc, sur l'épuisement lié au recours au droit, c'est essentiel parce qu'en fait, et c'est pour ça que les droits de la nature, à mon avis, sont une réponse bien plus apaisante de ce point de vue-là. Moi, j'ai enchaîné pendant des années des recours juridiques. Ça prend énormément de temps, énormément d'énergie. Et à la fin, on n'est souvent pas satisfait. Donc, il faut avoir gardé en tête que le juge, c'est l'homme du passé. Et que c'est pas au juge de faire la politique. Et donc, lui ne peut que constater. Et malheureusement, ils constatent souvent bien trop tard. Et donc forcément, soit c'est déjà détruit, soit c'est en cours de destruction. Et puis, vous attendez d'autrui qu'ils fassent à votre place, qu'ils vous donnent raison. Et ça, c'est un rapport qui est très difficile à vivre. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi pour ça que les droits de la nature me semblent être une réponse vraiment opportune à ce qu'on traverse. C'est que c'est un droit en amont de préservation. C'est un droit de dialogue. C'est-à-dire que vraiment, c'est profondément lié à une question de gouvernance, de bonne gouvernance, dans laquelle chacun peut s'exprimer pour représenter les autres. Et notamment lorsqu'on a un attachement fort, par exemple, à des terres parce qu'on en dépend alimentairement, mais pas que, parce qu'on a un lien d'identité avec ces terres, parce qu'on a grandi là, parce que nos parents ont grandi là, parce qu'on s'est toujours promené là. Et que ce soit chez les peuples maoris ou que ce soit en Espagne, avec les habitants de la lagune de la Mar Menor, eh bien, il y a un lien d'attachement viscéral à ces écosystèmes. Et ils veulent les préserver, pas uniquement parce que c'est de l'eau potable ou des terres fertiles, mais parce que c'est intrinsèquement lié à eux. Et il se trouve qu'en France, il y a déjà un territoire qui a reconnu des droits à la nature. À cause de ça, est-ce que vous savez lequel c'est? Ou est-ce que vous pouvez le deviner? Les îles Loyauté. C'est une province de Nouvelle-Calédonie. Ils ont eu la possibilité, grâce à leur statut un peu particulier, d'écrire leur propre code de l'environnement. Et dans leur code de l'environnement, ils ont inscrit non seulement la possibilité de reconnaître des droits à la nature, mais aussi ce qu'ils appellent le principe unitaire de vie, c'est-à-dire que les êtres humains appartiennent aux vivants et que nous sommes vivants. Et que donc, faire du tort à la nature, causer du tort à la nature, c'est aussi causer du tort à l'identité de ce peuple. Et donc, du coup, ce principe unitaire de vie, il vient rappeler dans le code de l'environnement qui a été adopté donc en 2019, et donc sur un territoire français, la nature, elle aussi, a des droits, et que de la protection des droits de la nature dépend aussi la protection de nos droits. Et donc, j'espère que ça peut répondre à votre question. Il y a déjà des territoires qui ont fait ce chemin juridique, et justement, c'est vraiment dans l'idée de sortir des tribunaux, de sortir du coup dehors et de recréer un lien d'empathie et de gouvernance équilibrée entre les intérêts humains et les besoins non humains.
Si je peux me permettre sur une petite précision au niveau politique, alors, il y a quand même une loi sur le zéro artificialisation nette qui est parue. Oui, c'est du pipeau, je suis d'accord. Mais bon, 50% en 2030, 100% en 2050. Tout est en 2050 puisqu'on sera plus là. Bon, elle existe, elle est combattue de partout. Et nous, on est un certain nombre ici dans la région à se battre contre le fameux projet Éclat aussi, où c'est pareil, ce sont des très bonnes terres agricoles qui vont être détruites, bétonnées pour un parc Astérix. Enfin, j'appelle ça le parc Astérix, mais c'est une horreur. Voilà. Mais alors, il faut savoir aussi, c'est un chiffre qui est assez intéressant, c'est que on urbanise un territoire. Un département français tous les 8 ans maintenant, c'était tous les 10 ans auparavant, et qu'aujourd'hui, la masse de béton et de goudron qu'on a produite est plus importante que la biomasse vivante. Voilà, c'est aussi un rapport, un élément de réflexion. Je vais continuer à donner la
parole. J'ai pas répondu à deux autres questions, mais comment faire donc pour rendre à la nature sans faire du greenwashing tel que c'est actuellement? Moi, je dirais que, en fait, déjà, ça commence par une réflexion profonde, c'est-à-dire qu'est-ce que je prends? Parce qu'en fait, on ne se rend même pas compte de ce qu'on prend. On mange tous les jours sans se poser la question de ce qu'on rend en échange de tous ces aliments qu'on prend à la nature, en fait. Et on n'a même plus conscience, pour la plupart d'entre nous, ceux qui ont une alimentation carnée, que leur alimentation est dépendante de la mort d'un autre être vivant. Donc il y a une vraie prise de conscience déjà intérieure de notre impact, des choses qu'on ne voit même plus, dont on n'a même plus la sensibilité, pour pouvoir se poser la question de ce qu'on rend. Et un exemple tout simple, qui n'illustre absolument pas une pensée complexe. Je n'ai pas la prétention de pouvoir répondre entièrement à cette question parce qu'en fait, on n'en est même pas là aujourd'hui d'avoir une vision globale. Mais je trouve que, par exemple, les questions autour du compost sont un élément intéressant. On développe de plus en plus la question du compost. En fait, si on regarde le cycle biologique de nos aliments, à minima, on peut faire en sorte que justement il y ait quelque chose qui retourne à la nature par le biais justement du compostage des déchets organiques qui sont là pour justement recréer aussi du vivant ailleurs. Et donc si déjà on intègre dans notre façon de penser qu'il y a une partie de nos aliments, si on ne les consomme pas, qu'on ne les mette pas à l'incinération, qui semble déjà en soi aberrant, eh bien qu'on ait conscience qu'on a aussi un rôle dans cette chaîne de vivant. Donc c'est des choses comme ça. Je vous donne qu'un exemple et ça doit avoir l'air insignifiant, mais en fait ça fait partie de toutes ces choses qu'on peut redéconstruire en se posant tout simplement la question de justement quand j'ai une action ou quand je me sers de la nature, comment est-ce que je peux faire une action en retour, et ainsi une fois, deux fois par jour, de vraiment limiter drastiquement pour avoir le moins de choses à rendre possible, et du coup avoir l'action positive de rendre quelque chose de positif à la nature. Il y avait une dernière question sur les propositions juridiques. Si je devais rêver sans avoir de vision stratégique, mais je pense qu'il devrait y avoir une modification de la Constitution. D'ailleurs, pendant les débats sur la loi climat, on se posait la question d'introduire la question du climat dans la Constitution. Je pense qu'il faut que les droits de la nature y apparaissent. C'est le cas en Équateur avec l'article 71, mais il y a aussi d'autres constitutions un peu partout dans le monde qui intègrent les droits des générations futures, mais aussi une certaine forme de reconnaissance des droits des animaux, comme c'est le cas en Inde, qui a quand même la constitution la plus longue au monde, mais qui comprend aussi notamment le principe d'empathie des êtres humains vis-à-vis des animaux, qui est une façon de dire qui est aussi intéressante. Et qui, donc, je pense que la constitution serait un outil assez important pour justement intégrer dans toutes les strates, parce que l'intérêt de la Constitution, c'est que c'est censé rayonner sur l'ensemble des textes. Et que par recours au Conseil constitutionnel, ensuite, on puisse faire échouer soit des projets de loi, soit des projets tout court, qui seraient contradictoires avec cette vision politique de donner des droits à la nature. Et puis après, ça doit potentiellement du coup passer par des organisations de gouvernements locaux sur des écosystèmes. Alors on peut passer, nous on a fait le pari de passer du coup par notamment tout ce qui est schéma d'aménagement de gestion des eaux. Alors c'est barbare hein, comme texte, comme titre, mais en fait c'est ce qui régit l'objectif européen de bonne santé des écosystèmes. Et avec les commissions locales de l'eau qui sont déjà certaines formes de gouvernance, mais dans lesquelles le citoyen, malheureusement, ne participe pas ou que trop peu. Et donc, du coup, il y a vraiment à repenser cette gouvernance pour que, moi, je prends l'exemple de la Guyane, mais j'en raconte plus dans mon livre. Souvent, dans les commissions qui sont censées justement prendre soin de nos écosystèmes, on retrouve qui ? Les acteurs de territoire, les agriculteurs de la monoculture, les industriels de la mine et tous ces gens-là qui participent activement pendant que nous sommes éloignés, malheureusement, ou trop éloignés de ces lieux de décision à ce qui est... en substance l'administration de nos territoires. Nous, on pense qu'on peut intégrer tout à fait aujourd'hui et sans aucune contradiction juridique les droits de la nature dans ces schémas d'aménagement de l'eau pour repenser des gouvernances territoriales. Les schémas directeurs, les SDAG, sont des outils avec lesquels on peut définir des gouvernances. On a la liberté dans ces schémas d'imaginer des gouvernances différentes. On peut passer par ça. Et les plans locaux d'urbanisme qui sont une manière de créer, on le fait aujourd'hui, par exemple, des corridors écologique et dans lesquels on pourrait tout à fait, dans les principes directeurs, intégrer les droits de la nature. On l'a proposé notamment, vous savez, c'est la ville de Paris en ce moment qui ouvre la question de la réforme de son plan local d'urbanisme qu'elle appelle désormais bioclimatique. Mais dans la plupart du temps, on parle encore de la nature comme espace vert. Comme déjà, rien que dans la terminologie, assez difficile, et dans une vision strictement utilitariste, c'est-à-dire on va protéger les espaces verts parce que c'est super pour les humains. Un exemple qui est quand même intéressant et qui montre qu'on peut avoir une vision non utilitariste, non anthropocentrée de la nature, c'est l'exemple de la ville de Curitiba au Costa Rica qui a reconnu la citoyenneté de l'ensemble des non-humains qui habitent la ville. Donc dans leur plan local d'urbanisme, ils ont revu notamment leur modèle traditionnel de trottoir qu'on retrouve chez nous, c'est-à-dire en fait du goudron sur lequel marchent les êtres humains. Ils ont cassé ces trottoirs, ils ont planté des arbustes et des arbres, tout simplement parce qu'ils sont du coup partis du principe que si les humains ont le droit de se déplacer, dans ce cas-là, il faut aussi rendre possible le déplacement des non-humains, notamment des papillons, des pollinisateurs, des insectes qui sont dépendants d'un abri et d'un couvert comme les oiseaux, notamment pour se cacher. Et donc du coup, de repenser une ville à travers les yeux d'un oiseau, à travers les yeux d'un insecte. Et c'est ça, en fait, que crée le déclic d'un droit bioperspectiviste, c'est qu'on peut tout à fait aujourd'hui se servir de nos PLU pour intégrer cette vision bioperspectiviste dans l'écriture de nos textes. On est assez persuadé que ça aurait un impact très fort, à la fois sur l'éducation des enfants, parce que c'est impensable aujourd'hui d'éduquer des enfants à l'écologie dans des villes goudronnées dans lesquelles il n'y a pas, en fait, de place pour les autres non-humains. Il faut savoir qu'on est quand même dans nos villes. Par exemple, à Paris, il y a plus de 1200 espèces animales et végétales. Et pour le coup, on construit nos villes uniquement pour une seule espèce. C'est quand même un non-sens. On pourrait quand même élargir un petit peu la focale. Il y a des espèces dont on est absolument dépendante. Je prends l'exemple des rats, contre lesquels les élus de droite adorent pester. Sauf que les rats, s'il n'y en a plus à Paris, au bout de 3 jours, les canalisations sont bloquées et le système d'évacuation des égouts est dysfonctionnel. Donc, il est évident qu'on a une relation d'interdépendance avec ces animaux dont on dépend intrinsèquement pour le bon fonctionnement de nos villes. C'est pas valorisé. Il y a toute cette relation, du coup, aux non-humains qui pourrait être introduite, en fait, dans l'ensemble des textes de planification territoriale. Je vous dis que... Je vais peut-être vous dire que qu'il y a de l'espoir, parce qu'aujourd'hui, honnêtement, on est écouté sur ces questions-là. Par exemple, sur le Nant-Bénin à Pessé-Nancroix, le maire nous a dit bah, « Pourquoi pas ?» Dans ce cas-là, on passe par le PLU. Là, on était en Corse cette semaine et on réfléchit à intégrer ça justement dans les documents d'urbanisme locaux, mais aussi dans la création d'autres outils, comme par exemple une marque pour représenter un fleuve et pour permettre à des activités économiques qui respectent les droits de la nature d'être labellisées et donc de se différencier des activités économiques qui ne le sont pas. Il y a tout un tas d'outils comme ça qu'on peut inventer, créer et créer des expériences surtout locales pour montrer que non seulement c'est utile, mais en plus techniquement ça marche. Et donc du coup c'est vraiment un mouvement qu'on souhaite approfondir. On est soutenu en ça par aujourd'hui honnêtement différentes institutions qui pèsent dans le débat. Par exemple, j'ai fait une formation pour l'Agence française de développement, l'AFD. C'est quand même par une petite association de quartier, ils veulent intégrer la reconnaissance des droits de la nature dans leurs critères de développement de projets à l'étranger. Parce qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, le développement de projets qu'on a eu traditionnellement, hein, c'est-à-dire on prend de l'argent, on le met à un endroit, et en gros, il y a des bénéficiaires qui prennent cet argent pour développer des projets, que cette vision en fait, du développement de projets, elle est surannée, elle ne fonctionne pas, et ils veulent intégrer la dimension justement droit de la nature, parce qu'il y a aussi cette idée de gardien dans le fait de construire des projets qui sont pour les habitants et qui sont construits avec les habitants. Et c'est le cas aussi de l'OFB, qui s'intéresse, de l'Office français pour la biodiversité, qui s'intéresse à ces questions, et d'autres organisations comme l'ADEME qui intègre aussi les droits de la nature très clairement dans les 4 schémas pour la transition écologique et qui y voit un outil aussi concret pour agir. Donc même au sein des ce qu'on appellerait plutôt les grandes institutions, je sais pas comment trop dire ça, mais en tout cas bon, des établissements qui sont aussi tournés vers la prospective, tournés vers construire un modèle pour demain, on reçoit un soutien pour lesquels j'ai espoir, en fait, parce que je me dis, si on arrive à convaincre des gens très sérieux à l'OFB que, en fait, on n'est pas complètement fou et qu'on propose des outils concrets, peut-être que ça va changer plus vite que ce qu'on pense.
Il y a les trois dernières questions.
Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, l'interrogation que j'avais, c'est est-ce que le droit est toujours le plus adapté pour défendre la nature? Je vous donne un exemple concret dans mon département, la Sarthe, les moulins. Les moulins, c'est un débat extrêmement vif en Sarthe parce que vous avez des très vieux moulins qui existent depuis un siècle, qui ont du coup une biodiversité autour, mais évidemment qui ont une retenue et qui ont une forme de barrage. L'idée générale qui vient, c'est d'arraser un certain nombre de ces barrages au nom de la continuité de la biodiversité. Donc c'est un débat entre qui mérite d'intervenir. Je ne pense pas qu'il y ait une solution satisfaisante qui s'impose véritablement. Je me demande qu'est-ce que le droit de la nature pourrait dire dans ce cas. Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement mettre tout le monde autour de la table et trouver des solutions les plus satisfaisantes pour en effet respecter la nature? C'est bien l'objectif. Mais aussi pour tenir compte aussi d'un certain nombre d'autres caractéristiques. Voilà, c'est l'approche uniquement par le droit sur lequel je m'interroge.
Oui. Moi, je suis aussi un dirigeant associatif d'une association agréée pour la protection de l'environnement qui lutte contre l'obsolescence programmée, donc aussi en portant plainte. Donc, je crois dans l'outil du droit. Et en même temps, on voit aussi que le droit, c'est un outil conservateur, souvent qui reflète, comme tu le disais aussi, des rapports de force dans la société. Et est-ce qu'on ne peut pas craindre le fait que, oui, on va accorder des droits à la nature, mais sans doute inférieurs à ceux des humains, parce qu'il y a aussi une hiérarchie dans le droit. Donc, je sais pas, la liberté d'entreprendre pourrait être au-dessus de celle de protéger un écosystème. Et du coup, et donc éviter une sorte d'appropriation, parce qu'une fois qu'on a donné quelques droits à la nature, qu'on a compensé, parce qu'après il faut l'estimer financièrement, dire voilà, vous avez payé une amende de X milliers d'euros, et puis beaucoup compensé. Donc il faut se poser la question de cette hiérarchie, parce que finalement cette interdépendance vivant, elle impose sans doute de mettre ce droit-là au sommet, je pense. Donc, pas seulement des droits, mais quel droit au-delà du rapport de force actuel économique.
Merci pour votre intervention. Moi, j'ai deux questions. Ce qui m'a fait réagir en premier lieu, c'est le prendre et rendre à la nature. Et tout de suite, pour moi, ça fait écho au fameux net zéro dont tu parlais tout à l'heure. Toutes les grandes entreprises ont aujourd'hui développé des plans du type net zéro carbone en année. On en connaît une très bien qui est net zéro carbone depuis 2007, hein, c'est Google. Oui, oui, c'est marqué sur leur site. Et j'ai appris très récemment qu'il y avait un deuxième indicateur qui était en préparation, qui était du net zéro biodiversité ou quelque chose de ce type-là. Donc je trouve ça très grave. Et je me pose la question, est-ce qu'en travaillant sur le droit de la nature, on peut réussir à contrecarrer ces initiatives qui sont tout à fait malheureuses? Ça, c'était ma première question. Peut-être que vous pouvez nous aider à y répondre. Et deuxième, ça fait écho à une conversation que j'ai entendue cet été. Sujet du droit de la nature et qui faisait le lien donc entre donc droit, le fait de donner des droits, ça veut dire que si les droits ne sont pas respectés, on va punir. Pour punir, on va essayer d'évaluer un préjudice et donc on va essayer de valoriser. Et donc du coup, on va donner une valeur à la nature et donc on fait un lien entre cette notion de on donne une valeur à la nature, donc d'un point de vue humain. Et là, est-ce qu'on n'est pas en train de se contredire lorsqu'on est dans cet exercice-là? Je voudrais aimer avoir votre point de vue là-dessus. Merci.
Simplement, ce que je voudrais dire, avant de poser une question, c'est que est-ce que vous vous rendez compte que le droit ne règle absolument pas tout, quoi. Je pense qu'on est quand même, et particulièrement en France, hein, les lois, les règlements, les normes, on pense qu'on fait des choses et qu'on a réglé les choses définitivement. Et ce n'est pas du tout vrai. Et je pense que le droit et de nouveaux droits pour la nature sont absolument indispensables, mais en même temps, comme ça a été dit, beaucoup de choses existent aujourd'hui. D'abord, le code de l'environnement, et puis l'ensemble des schémas, des SAG, des SDAG, des SRADET, ce que vous voulez, la trame verte et bleue, etc. Mais après, l'application concrète, c'est toujours une question de rapport de force, d'évolution culturelle, psychologique, des sociétés, etc. Donc, attention à avoir quand même ce petit recul-là. Moi, je fais partie de France Nature Environnement et de la LPO. On gagne des contentieux chaque semaine et on en gagne depuis des années et des années, certains très lourds, très gros, certains plus ponctuels sur des espèces, etc. Mais on ne s'est jamais dit que c'est avec ça qu'on allait changer le monde et transformer l'état des lieux et de la non-prise en compte du vivant, etc., etc. Donc juste, on s'en sert, on crée de la jurisprudence, on fait évoluer les lois au fur et à mesure, avec tout le monde, avec tous les autres, mais on ne se dit pas que c'est un objet magique qui va permettre à un moment que les autres et que les intérêts économiques, notamment, ferment leurs clapets et arrêtent, alors qu'on est en train de discuter avec toutes les parties prenantes, de monter directement à Matignon ou à l'Élysée pour gagner des arbitrages, alors que la société est en train difficilement d'établir des compromis, etc. Moi, ma question sur le fond, Marine, elle est sur qui représente et comment on représente. Et je pense que c'est une question qui est très forte, parce que c'est vrai que quand on parle de fleuves en Nouvelle-Zélande, on peut se dire, ben tiens, c'est assez logique, il y avait des peuples là, c'est eux qui vont être les gardiens d'eux, parce qu'ils vivent avec depuis des millénaires. Mais il y a beaucoup d'endroits où c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et et où les représentations, donc nous, on est comme d'autres des organisations reconnues d'utilité publique, agréées, etc. Mais ça ne suffit pas du tout pour faire que nous soyons les bons représentants et que quand on parle d'une rivière, comme en parlait Géraud à l'instant, eh bien, il n'y ait pas à côté d'autres intérêts, d'autres vécus de la rivière, des pêcheurs, des trucs, etc., qui puissent être aussi les gardiens d'eux. Moi, je m'occupe de questions un peu touchy du loup et de l'ours depuis 2 décennies. Je peux vous dire que demain, je serai très embêté d'être le représentant du loup. Autant dans les débats entre humains, je porte, entre guillemets, la nécessité et l'obligation de lui faire sa place, de respecter sa légitimité à être parmi nous et autour de nous, mais parler en son nom, je ne le ferai jamais, quoi. Donc, je pense qu'il y a une vraie question, une fois qu'on a donné un droit à la nature, comment on organise la délibération autour de comment on le met en œuvre.
Oui, j'aurais aimé savoir, à côté d'un certain nombre de droits de la nature, comme le droit à ne pas être pollué ou le droit à exister, la nature a aussi le droit à l'accomplissement de son rôle dans le processus des cycles de renouvellement de la vie. Quelle obligation l'humain aurait pour des écosystèmes ou des espaces où la nature a déjà été modifiée, je ne parle pas artificialisée, où a déjà été modifiée ou en cours de l'être. Et comment, finalement, quelle obligation légale, autant que morale, aurait l'humain sur ces espaces-là? Est-ce qu'il est question de rewilding, de réensauvagement? Est-ce qu'une nouvelle intervention sur ces espaces pour les rendre, finalement, dans un écosystème qui pourrait être originel est possible? Ou est-ce que c'est encore, une intervention néfaste? Donc, comment on rétro-pédale sur des espaces qui sont en voie de destruction et qui ne peuvent plus jouer leur rôle de reproduction des cycles de la vie?
Wow. Voilà, c'est ça. Non, je n'ai pas une demi-heure. Je crois que la première, c'était la question sur est-ce que le droit est finalement le plus adapté pour défendre la nature. Moi, il y a plein de situations où, en fait, on n'a pas fait appel au droit, en fait. Et je vais citer l'exemple, peut-être vous en avez entendu parler, du TEP Ménilmontant. C'était une dent creuse face au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Et un jour, il y a un des habitants, ça faisait des années qu'il faisait des tours de garde pour empêcher que des constructions se fassent, c'est-à-dire d'empêcher le tractopelle de venir et de commencer à détruire là où il y avait un terrain de sport pour les enfants et un jardin partagé. Et il me dit, écoute Marine, on a vu des espèces protégées sur le site, est-ce que tu peux nous aider à déposer un recours? Et j'ai tout de suite dit, non mais oublie le recours en fait. Oublie le recours, les espèces protégées, la juge, malheureusement, la plupart du temps, elle s'en fout complètement. En plus, tu as 3 photos de lézards et une photo de buse, on va aller nulle part avec ça. Je dis, viens, on pète le cadenas et on occupe le site. Bon, alors, c'est vraiment la juriste en carton qui vous dit ça, mais ça nous a pris 24 heures de faire tomber le projet. En fait, parce que quelques semaines après, c'était les municipales. Et que Hidalgo n'avait pas envie d'avoir des images d'habitants traînés par les cheveux par des CRS. Alors que nous, on avait amené des bottes de foin, on avait monté une scène et il y avait des gens qui faisaient de la gratte l'après-midi. Bon, donc le droit n'est clairement pas l'arme la plus utile dans certaines situations. C'est clair. Non, mais il faut avoir conscience en fait de l'agenda politique, du soutien que vous avez au niveau local. Il faut utiliser toutes les choses qui sont présentes en fait sur le terrain. Et puis aussi de mobiliser le droit. Bah parfois c'est pas forcément le meilleur outil, le plus efficace. Et donc du coup. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a beaucoup de choses à faire sans le droit, tout simplement aussi parfois avec de la mobilisation, du bon sens. Et le droit, c'est avant tout un outil politique. Donc, c'est avant tout en fait à la politique de faire les choses. Et le droit est un outil, mais n'est pas une fin en soi. Et donc, du coup, c'était la question aussi des moulins, par exemple, il me semble. C'est une question qu'on est venu me poser. Alors, un copain qui a un moulin, qui est venu me poser la question et qui m'a dit « Mais est-ce que moi, je peux être reconnu comme le gardien du moulin ?» Facile. Et donc, j'en ai parlé avec des copains hydrologues et ils m'ont dit, on ne peut pas donner de réponse clé, en fait, sur la question des moulins, parce qu'il y a des moulins, ils sont... C'est clairement un obstacle écologique, les poissons ne passent pas, etc. C'est pas une bonne idée. Il y en a d'autres, ils sont là, il y a un écosystème autour, etc. Et donc là, encore une fois, non, la question est de faire de la politique, en fait, de faire de la vraie politique, de se mettre autour de la table, de s'asseoir et de discuter. Et c'est vraiment aussi la question des droits de la nature, c'est-à-dire, est-ce que finalement cet ouvrage est compatible avec le fonctionnement du vivant ou est-ce qu'il ne l'est pas ? Et il n'y a pas à faire une loi au niveau national en disant on détruit tous les moulins. Parce qu'en fait, c'est ça hein, qui se pose en ce moment. C'est, y a les directives européennes sur la continuité écologique, donc il faudrait enlever tous les moulins. En sachant que pour les gens qui habitent sur des moulins, c'est évidemment difficile à entendre. Pour ceux qui y sont attachés parce qu'ils considèrent que c'est leur patrimoine culturel et historique, ça ne passe pas. Et donc, ça ne sert à rien de vouloir plaquer au niveau d'un ensemble d'un continent une même règle pour tous qui aura un impact, du coup, qui n'est plus capable de voir le cas par cas et la logique même scientifique derrière tout ça. Et les hydrologues disent, non, mais nous, parce que j'en ai parlé avec le réseau Rivière Sauvage, disent, non, mais il faut voir au cas par cas. Il faut arrêter de vouloir tout détruire. Il faut vraiment se poser avec les gens et trouver des solutions locales, quoi. Et les droits de la nature, c'est finalement cet outil. C'est un outil juridique, mais c'est surtout un outil de gouvernance. On replace la nature au centre de la discussion, au centre du dialogue, et on sort un peu des positions dogmatiques, justement, qui s'appliquent de manière trop large, parce qu'on a voulu, et c'est un peu les travers aussi du droit européen, on a voulu harmoniser le droit, et notamment le droit de l'environnement. Sur certains pays, ça a un impact positif, parce qu'ils partent de très loin. Parfois, ça veut aussi dire niveler par le bas, simplifier. Et là où on voudrait faire plus, finalement, on se retrouve à faire moins. Donc, il faut aussi sortir d'une logique de droit descendant qui s'appliquerait partout de la même manière. Et au contraire, moi, je suis plutôt adepte d'un droit coutumier, où pour le coup, on a un droit quasiment non écrit, un droit oral qui vient de la sagesse du territoire et qui est capable, justement, de penser l'altérité, de penser d'autres manières, des alternatives, plutôt que noir ou blanc. Donc, pour ça, effectivement, les droits de la nature, des fois, c'est pas adapté, quoi. Et puis, bon, pour le droit outil conservateur, c'est clair. Hein. Et d'ailleurs, Christopher Stone le dit, hein, et il cite des passages, mais c'est effrayant. Avec le recul dans son livre, il cite des passages de textes de loi qui interdisaient notamment aux femmes de devenir avocates, parce que par nature, elles n'étaient pas prédisposées, elles n'avaient pas les compétences pour exercer le métier d'avocate, qui par nature, est un métier de conflit. Et qui est donc pas possible pour les femmes qui sont plutôt de nature douce et conciliante d'aller plaider devant les tribunaux. Non, mais il sort des textes, il nous rappelle à quel point justement le droit peut être un outil de domination extrêmement dur. Et c'est en ça aussi que c'est intéressant, c'est que le droit entre de mauvaises mains est un outil de domination. Et une arme à double tranchant, c'est-à-dire le droit bien utilisé est un outil efficace, mais peut-être aussi une manière justement de créer des modèles utilitaristes et d'exploitation tels qu'on les voit aujourd'hui. Et aujourd'hui, pardon, le droit d'entreprendre est largement au-dessus de la protection de l'environnement. Donc, je ne pense pas que les droits de la nature viennent malheureusement changer la réalité économique que nous traversons aujourd'hui, mais elle la remet en question. Là, par exemple, sur la lagune de la Marmenor, pendant des années, les habitants n'avaient pas de quoi se battre. Désormais, ils sont 7 gardiens, nommés justement pour représenter les droits de cette lagune face à tous les lobbies agricoles. Et aujourd'hui, quand même, on est bien placé en France pour voir à quel point les lobbies des pesticides, les lobbies de la monoculture, etc., font un travail de sape monumental quand il s'agit justement à la fois de mettre dans la balance, la science, la protection de nos territoires, et puis d'un autre côté, les intérêts économiques. Donc, pour moi, ça vient au contraire réajuster cela en nous donnant la possibilité d'agir. Aujourd'hui, par exemple, et sur la question de la financiarisation et de l'indemnité, on le fait. Le préjudice écologique, aujourd'hui, en fait, c'est ça qui est assez fou en France, c'est qu'on reconnaît le préjudice écologique, donc l'obligation pour celui qui porte atteinte à la nature de réparer, mais on ne reconnaît pas que la nature a des droits. Pourtant, c'est le corollaire le plus banal que j'ai jamais vu. C'est-à-dire que si on reconnaît qu'il faut réparer les préjudices causés, c'est bien qu'à la base, la nature a le droit d'être préservée dans son intégrité. Sinon, il n'y aurait pas de préjudice. Et donc, comment c'est possible dans notre société qui reconnaît à la fois des parcs, des réserves naturelles, et donc qui connaît parfaitement la structure de la personne morale écologique, parce que qu'est-ce que c'est un parc ? si ce n'est déjà une entité juridique censée représenter un écosystème. En plus de ça, on a des parcs qui peuvent aller en justice. C'était le parc national des Calanques qui allait en justice, par exemple, pour une affaire de braconnage qui a obtenu réparation du préjudice écologique. Donc on sait qu'en plus, il faut réparer les droits de cette personne morale, écologique, lorsqu'ils sont lésés. On a la forme, on n'a pas le fond. Il manque le fond, c'est-à-dire les droits de la nature. Donc nous, on est dans la restauration, en fait, c'est aussi d'une certaine forme de logique juridique qui reconnaît tout simplement ce qu'on fait dans le fond, c'est de dire s'il y a une obligation de préserver les intérêts de la nature, c'est bien qu'elle a le droit à la préservation de son intégrité, sinon tout ça, finalement, ne ferait pas de sens. Mais c'est un changement culturel profond et c'est ça aussi qui à mon avis, est une vraie réponse du mouvement des droits de la nature, c'est qu'il ne s'agit pas juste d'une lubie de quelques juristes qui veulent inventer une norme encore différente et rajouter une strate pour compliquer tout ça, c'est au contraire simplifier en remettant du bon sens, enfin en tout cas à mes yeux. Sur le net zéro, en fait, moi, j'utiliserais plutôt l'outil des limites planétaires et du coup, d'utiliser des outils plus scientifiques alliés au juridique, justement, parce que y a besoin, en fait, aussi de remettre un petit peu de science dans tout ça. Et les scientifiques disent très bien que la compensation n'est pas une réponse scientifique valable, en fait. Et donc, du coup, il y a, à mon avis, plus que dans les droits de la nature, pour ces questions-là, des outils scientifiques à mobiliser, ce qu'on ne fait pas, parce qu'on écoute... Enfin, des fois, par exemple, là, sur le cas des éoliennes offshore, on a des scientifiques qui sont obligés de s'auto-saisir, alors même qu'ils sont dans des instances qui devraient être saisies automatiquement. Enfin, je veux dire... Donc, il y a aussi une place à donner et un pouvoir à donner à ces instances. Aujourd'hui, on a tout un tas d'instances disséminé à gauche à droite, le Haut Conseil pour le Climat, le CNPN sur la biodiversité, l'Observatoire sur du nucléaire. Et en fait, aucune de ces instances n'a véritablement de pouvoir. On les consulte quand ça nous arrange, on passe outre leurs décisions quand on a des motifs économiques ou politiques qui nous semblent supérieurs. Donc il y a aussi une importance de replacer ces instances dans un rapport de force beaucoup plus étroit avec celui du monde politique, qui a sinon, du coup, tendance à écarter tout simplement ces voies-là. Et c'est Marie-Angèle Lhermitte, qui est une des juristes qui travaille sur les droits de la nature et qui a été une des pionnières en France, qui disait, qui parlait, elle, d'animisme juridique, en faisant le parallèle, en fait, avec l'animisme scientifique, c'est-à-dire que finalement, on laisse aux scientifiques la possibilité de dire comment fonctionne le vivant, et d'une certaine manière, c'est notre animisme à nous, dans le sens où qui parle pour la nature et pour les intérêts, enfin, pour exprimer finalement les besoins de la nature, on l'a laissé à la science, et elle dit il faut justement s'empreindre d'une forme d'animisme juridique, c'est-à-dire placer aussi dans le droit la traduction, en fait, des besoins du vivant. Et donc, je vous invite à lire du coup l'article du Monde parce qu'il présente assez bien la pensée qu'elle développe sur ce sujet-là. Et donc, pour aborder votre question, moi, je suis complètement d'accord. Hein, le droit ne change pas tout. Et encore une fois, ça, pour moi, c'est l'idée de prendre le problème à la racine. Et ça m'étonne qu'en tant que défenseur du loup, alors que vous en êtes l'ambassadeur, finalement. Je ne sais pas si c'est le terme de gardien qui vous dérange ou si vous préfériez ambassadeur ou quelque chose comme ça.
Non, mais en un mot, je suis non seulement défenseur, mais je suis administrateur de l'Office français de la biodiversité, donc je suis un peu au cœur de beaucoup de choses. Moi, ce qui me gênerait, c'est d'être ambassadeur, moi, alors que des habitants, des gens confrontés au loup, ne seraient pas eux ambassadeurs. Moi, je veux travailler avec les bergers, avec les éleveurs, etc. Je ne veux pas être l'ambassadeur exclusif du loup, même si, évidemment, je le défends et je porte très fort sa cause.
Alors, effectivement, dans le mouvement des droits de la nature, on voit jamais de gardiens seuls. C'est toujours des groupes de gardiens, des conseils qui rassemblent de nombreuses personnes. Et par exemple, là, sur la Marménor, il s'agit vraiment d'impliquer justement l'ensemble des habitants, que ce soit sur le fleuve Atrato, qui a aussi été reconnu sujet de droit, oui, qui a 14 gardiens. Il y a toujours des conseils, justement, pour éviter un peu une forme d'arbitraire ou de tyrannie, comme on disait tout à l'heure. Eh bien oui, voilà. Et puis que ça soit détourné. Et c'est là que aussi les mécanismes que proposait Christopher Stone d'administrateur ad hoc est intéressant, au cas où justement ceux qui sont censés représenter légalement cet écosystème fassent défaut. Parce qu'on n'est pas à l'abri que quelqu'un qui est nommé gardien demain ne remplissent pas ses fonctions. Donc, il faut évidemment pouvoir le révoquer, mais il faut aussi pouvoir le remplacer si on se rend compte d'une incompatibilité de sa mission avec ses décisions. Et donc, il faut toujours prévoir des mécanismes d'urgence et d'autocontrôle, puisqu'on le voit, on ne va pas reproduire ce qu'on critique vis-à-vis de l'État aujourd'hui dans une autre instance qui serait finalement viciée parce qu'elle aurait le même mode de fonctionnement. Et là où la nature a déjà été modifiée, comment faire ? Je dirais qu'en fait, alors nous, on est assez éloigné de la philosophie du rewilding, je pense, parce que contrairement au rewilding, le mouvement des droits de la nature, c'est penser l'homme dans la nature, justement casser les frontières entre l'homme et la nature pour réintégrer l'homme dans les vivants. Et donc, de la philosophie du rewilding et de ce que j'en comprends, il y a vraiment une forme d'éloignement de l'homme de la nature pour laisser la nature aussi reprendre son fonctionnement original. Et nous, c'est assez éloigné de... On pense que justement, il faut trouver un mode de coopération. Alors, ça passerait plutôt par l'exemple, en fait, pour une zone déjà urbanisée ou autre, de repenser en fait la nature à l'intérieur du, la ville ou cet espace urbanisé à l'intérieur du droit de la nature. Et comme je le disais tout à l'heure avec la ville de Khouribabat, transformer la ville pour l'adapter du mieux possible à ce qu'il y a, ce qui est existant, et pas essayer de déconstruire l'existant et de le rendre inhabitable à l'homme, parce qu'en fait, c'est vraiment pas le but de la et la philosophie de ce mouvement. Je vous remercie.
Eh bien, merci Marine, merci pour toutes ces interventions, merci à vous pour votre écoute. Et puis écoutez, je disais merci Marine pour toutes tes interventions, merci à vous de votre écoute, et puis bon courage, mettez-vous autour des tables et allez militer.